Prions. Merci notre Père pour ta parole. Merci pour Jésus qui est venu, pour ses paroles, pour tous ces mots qu'il a prononcés, toutes ces actions qu'il a faites. Je te prie qu'au travers de ce texte, tu puisses nous enseigner à vivre davantage d'une manière qui t'honore et avoir la bonne perspective sur le royaume que tu annonces. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous aimez les renversements de situation ? Est-ce que vous aimez les renversements de situation ? Cette question, elle est particulière. Parce qu'un renversement de situation, ça peut être bon, tout comme ça peut être pas forcément très bon. S'il y a un ami qui vous appelle et qui vous dit « Ah tu sais, il y a telle personne qui est arrivée et depuis tout a complètement changé. La situation, elle a complètement été renversée. » Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? On ne sait pas. Si ça dépend des circonstances qu'il y avait avant, ça dépend de la situation. Si tout va bien et que la situation se renverse, c'est généralement pas une bonne nouvelle. Si au contraire, bah, les choses allaient pas bien et que quelqu'un les renverse, là on s'en réjouit. Dans le texte qu'on vient de lire, Jésus, surtout vers la fin, il annonce un grand renversement. Un grand renversement de royaume, de fonctionnement qui va toucher tout le monde. Chacun sera impacté par cela. Jésus, c'est la personne qui a le plus clairement marqué l'histoire du monde. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu par, pas seulement par les chrétiens. Mais ce qu'on va voir dans le texte, c'est que ce que Jésus, il a fait, finalement, pour Jésus, c'est que le début. C'est que le début. Il annonce qu'il y aura quelque chose de plus grand qui est à venir. Un renversement bien plus grand qu'il va accomplir. Et ces éléments-là, qu'on va voir dans le texte, c'est comme des témoins de ce renversement qui est à venir, pour que, bah, quand les choses seront pleinement renversées, bah, on puisse être prêt pour que ce soit un sujet de joie pour nous. Ce texte nous parle de ce renversement que Jésus amène. Jésus, il n'est pas venu simplement pour améliorer les choses, pour rendre le monde plus beau, un petit peu meilleur. Non, ce qu'on va voir dans le texte, c'est que Jésus, il a un plan bien plus vaste qu'il prévoit. Il veut faire un grand renversement. Un grand renversement et une grande restauration. Alors, la question que je veux que chacun ait en tête ce matin, alors qu'on va parcourir ce texte, c'est ce renversement que Jésus il annonce. Ce renversement que Jésus il annonce, est-ce que c'est un sujet de joie pour moi ? Est-ce que c'est un sujet de joie pour moi ? Donc, regardons au texte. On poursuit notre parcours dans l'évangile de Luc, qui nous raconte la vie de Jésus. Et ce qu'on a vu précédemment, c'est que Jésus il était présenté comme le roi. Le roi promis par Dieu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Il a le pouvoir de pardonner les péchés, nos offenses envers Dieu. Et donc chacun est appelé à se détourner de ses péchés et se tourner vers Dieu, vers Jésus, pour être pardonné. Cependant, il y a plusieurs qui s'opposent à lui. Plusieurs ne le reçoivent pas. Comme on a vu dans le texte de la fois passée, juste après que Jésus ait fait une guérison, il y en avait qui étaient remplis de fureur, qui voulaient lui faire du mal. Donc, c'est là qu'on en est. Regardons à notre passage. Donc, commençons par regarder au verset 12 à 16. Jésus, il se retire et il prie toute la nuit. Puis au matin, il appelle ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donne le nom d'apôtres. C'est ce qu'on voit dans ces versets. Dans ces versets, ce qu'on voit, c'est que Jésus, il remplace le fondement précédent du peuple de Dieu pour le remplacer par un nouveau. Il crée un nouveau fondement pour son peuple. Il le fait à partir de lui-même et de sa propre autorité. On voit ça, comment est-ce qu'on voit ça ? On voit ça dans le fait qu'il en choisit 12 déjà. 12, Ce n'est pas un chiffre juste comme ça, au hasard. 12, ça fait directement écho au nombre de tribus qu'il y avait en Israël. Il y avait 12 tribus. Ce chiffre, ça fait directement écho dans la tête des Juifs. Ça fait clairement symbolique du peuple de Dieu. Le peuple, c'était les 12 tribus. Et dans le passage précédent, on avait vu que malgré que le fait que Jésus soit le roi promis, le roi qui était bien plus grand que David, bien plus grand que la loi de Moïse, plusieurs le rejetaient, ne le recevaient pas. Et ainsi, dans notre passage, on voit que Jésus, il crée un nouveau groupe de 12. Un nouveau groupe de 12. On voit, en quelque sorte, le roi qui établit un nouvel ordre à partir de ceux qui le reçoivent. Il instaure un nouveau fondement, une nouvelle base. Jésus, il renverse l'ordre précédent établi, il met de côté les anciennes structures et il établit une nouvelle. Plus loin, dans le Nouveau Testament, on voit que ce fondement qui se consolide, c'est par les apôtres qu'on a la Bible, le Nouveau Testament. C'est sur la base de leur témoignage que l'Église est construite. Dans le livre des Actes, on voit les apôtres qui ont fidèlement témoigné de Jésus. Dans la lettre, par exemple, aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 20, on voit Paul qui, en s'adressant à une église, leur dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Jésus, c'est le roi. Et il établit un nouvel ordre sur de nouveaux fondements. Ce nouveau fondement, il donne les bases d'un nouveau peuple que constitue l'Église, un groupe où juifs et non-juifs sont réunis ensemble par Jésus. Le nom que Jésus il leur donne, c'est apôtres. Il les appelle apôtres. Ça nous informe sur leur rôle et ça nous montre encore une fois la centralité de Jésus. Le mot apôtre, ça signifie envoyé. Ainsi, les 12, ils ne sont pas fondés sur leur propre autorité ou sur leur propre message. Non, ils sont fondés sur Jésus. Ils sont les envoyés de Jésus. Ils sont appelés à être ses témoins, les témoins de son message. Donc ce groupe, il est fondé par Jésus, en marge de l'ancienne structure. Et les chefs religieux, les pharisiens, les spécialistes de la loi, tous ceux qui s'opposaient à Jésus, ils auraient pu se dire mais pour qui se prend ce Jésus ? Pour qui se prend ce Jésus ? Il arrive, il vient de dire qu'il était plus grand que David, et puis là il choisit 12 disciples. Pour qui est-ce qu'il s'est pris ? Est-ce qu'il s'est pris pour le roi d'Israël ? Et c'est qui ces 12-là ? Il a choisi des pêcheurs de poissons, des collecteurs de taxes. Est-ce que c'est une bande de bras cassés ? C'est quoi ça ? Pourtant, Jésus était véritablement le roi. Il était véritablement en train d'établir de nouveaux fondements pour son peuple qu'il allait racheter. Finalement, tous ceux qui s'opposaient à Jésus, ils étaient complètement à côté de la plaque, en décalage, et ils s'accrochaient à un ancien système qui n'était plus à jour. Imaginez dans les années 2000. Les années 2000, on est passé du franc belge en Belgique à l'euro. Imaginez quelqu'un qui aurait refusé ce changement. Il serait resté là, il aurait accumulé ses francs belges, il aurait refusé de les changer, il aurait dit « Non, moi, j'accepte pas ça. » Qu'est-ce qui se serait passé ? Il aurait eu l'air ridicule. Ridicule de voir que non, maintenant, on arrive dans un nouveau système. Il aurait fini ruiné, sans rien. Et là, c'est la même chose qui se passe. On voit le fondement du peuple, le roi qui arrive, qui crée de nouveaux fondements. Et la question, c'est allait-il le suivre ? Ou allait-il rester figé sur l'ancien modèle ? Aujourd'hui, on vit à une autre époque. On vit bien loin d'Israël. Cependant, face à l'action de Jésus et ce qu'on voit dans ce texte, cette même question, elle se pose pour nous. Jésus, il établit un ordre des choses. Il établit son royaume, il a un roi qui arrive. La question, c'est, serons-nous de ceux qui acceptent ce nouvel ordre, ce nouveau roi ? Allons-nous placer notre confiance dans le témoignage des apôtres qui témoignent de l'autorité de Jésus ? Ou rester en distance, attaché à l'ancien ordre des choses ? tout pouvoir et tout royaume passeront. À la fin, seul Jésus sera roi. Seule son autorité restera. Est-ce qu'on va accepter ce nouvel ordre? Maintenant, regardons au verset suivant. Regardons au verset suivant, donc verset 17 à 19. Et on voit, on va passer moins de temps là-dessus, mais un autre type de renversement. Un renversement face à la maladie et aux esprits impurs. Versets 17 et 18, on voit une foule de personnes de divers lieux qui vont vers Jésus. Et puis verset 19, je lis le verset 19. Verset 19, nous lisons. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plutôt dans l'évangile de Luc, que Jésus était capable de guérir. On voit que Jésus est plus fort que la maladie. Il est plus fort que la maladie, plus fort que les esprits impurs. Il y a une puissance en Jésus pour guérir et communiquer la vie. La Bible, elle nous présente, dans le contexte plus large, que la souffrance et ultimement la mort sont les conséquences d'un rejet de Dieu par l'humanité. Ces choses ne sont pas des conséquences directes. On ne peut pas dire « Ah tiens, parce que telle personne a péché, ah, elle est malade. » Mais finalement, c'est lié à ce rejet de Dieu. Ainsi, le monde, il est brisé. Mais ce qu'on voit, voici ailleurs dans l'Évangile, c'est que Jésus, il vient et il nous montre qu'il a assez de puissance pour renverser cela. Il est puissant pour renverser cela. En venant à Jésus, les personnes étaient guéries. Jésus, il a la puissance de renverser la maladie, et ultimement, il a la puissance de renverser la mort. Jésus était capable de renverser les conséquences du péché qu'il y avait dans le monde. Et plus tard, après sa mort à la croix, il ressuscitera, montrant qu'il était même plus fort que la mort. En Jésus, il y a la guérison pour notre monde brisé. Et les miracles de Jésus, ce n'est pas explicité ici, mais ils témoignent de sa puissance face au mal, face aux esprits impurs, face aux maladies et face à la mort. Ils témoignent de la réalité des promesses plus grandes que Jésus a ailleurs faites. Ces promesses, c'est qu'un jour, il établira son royaume, on voit ça à travers le fait qu'il est le roi, et dans son royaume, ce sera un monde renouvelé, où il éliminera complètement la mort, la maladie, la souffrance, les mauvais esprits, tout ça pour tous ceux qui seront venus à lui. Par sa puissance, il rendra la vie à tous ceux qui seront venus à lui, et en revanche, à tous ceux qui ne seront pas venus à lui, eux ressusciteront également, mais pour la mort éternelle, sous la colère de Dieu. L'essentiel des choses ici, sans passer beaucoup plus de temps là-dessus, c'est que Jésus est puissant pour renverser la mort et communiquer la vie à ceux qui viennent à lui. Notre société, elle a une vision très pessimiste de la vie. On pense que la vie, ce serait ici, c'est tout ce qu'il y a, et après, il y a la mort qui est forcément inévitable. Mais Jésus, il dit que non, c'est faux. C'est faux. Jésus, il a la puissance de renverser la mort et les conséquences du péché. Et il a promis qu'ultimement, il les renverserait complètement pour ceux qui viennent à lui. Face à cette restauration, ce renversement que Jésus fait, la question est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? Est-ce qu'on en profite de cette force qu'il y a en Jésus pour ceux qui viennent à lui? Regardons maintenant dans la suite des versets, à partir du verset 20. On voit que Jésus commence un discours. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit. Jésus commence un discours et dans ces versets, on voit deux groupes distincts. Il y a deux groupes distincts. Il y a d'une part ceux qui sont heureux et d'autre part ceux sur qui le malheur est. Malheur à vous, malheur à vous. Mais ce qui est assez surprenant dans ces versets, c'est quelles sont les personnes que Jésus place dans chacun de ces groupes. Regardons premièrement aux gens que Jésus dit heureux, aux personnes que Jésus dit heureux. Dans les versets 20 à 23, seulement ce qui les caractérise. Donc si on lit, fin du verset 20, « Heureux vous qui êtes pauvres ». Verset 21, « Heureux vous qui avez faim maintenant ». Heureux vous qui pleurez maintenant. Verset 22, heureux serez-vous lorsque des hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Ceux qui sont appelés heureux, ce sont les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent maintenant, ceux qui sont méprisés et rejetés à cause du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un titre royal qui parle de Jésus, qui désigne Jésus lui-même. En revanche, sur qui le malheur est ? Verset 24, « Malheur à vous, riches !» Verset 25, « Malheur à vous qui êtes comblés maintenant !» Malheur à vous qui riez maintenant. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Le malheur, il est pour tous ceux qui sont riches, comblés, qui rient et sur qui on parle en bien. C'est surprenant. Surprenant. Pourquoi ceux qui pleurent, ceux qui ont faim, ceux qui sont pauvres, qu'on insulte, devraient-ils être heureux ? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas plutôt ceux qui sont riches, rassasiés, qui devraient plutôt l'être. Pourquoi ? Pourquoi ? À cause de l'avenir. À cause de l'avenir et du royaume de Jésus qui vient. Jésus justifie ses affirmations par une présentation de l'avenir qui les attend. Le futur est clé, ici. On voit ça, verset 21. Verset 21, « Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. » Plus loin, « Car vous rirez. » Ensuite, verset 25, concernant ceux sur qui le malheur est, « Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Vous qui riez, car vous serez dans le deuil et les larmes. » Jésus proclame donc un grand renversement qui aura lieu dans l'avenir. Il y aura ceux qui sont en haut, qui seront abaissés, ceux qui sont en bas, qui seront élevés. Jésus est le roi éternel, promis par Dieu, qui régnera sur le monde entier, et il proclame comment ce sera dans son royaume. Il fait une annonce de comment ça va être. Et à la lumière de cela, il y en a certains qui peuvent se réjouir, et d'autres qui peuvent être avertis pour changer. Donc on va regarder plus exactement à qui sont ces personnes, qui sont les heureux. Est-ce que Jésus il parle simplement ici de ceux qui sont pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim. Est-ce que être pauvre peut-être économiquement, ce serait la condition pour faire partie du royaume ? Question qu'on peut se poser. On peut se poser cette question, mais si on prend les versets séparément, hors de leur contexte, on pourrait penser ça, juste en lisant le texte comme ça. Cependant, quand on regarde au contexte plus large des paroles de Jésus, et l'utilisation des sens de ces mots dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a quelque chose de plus que le matériel. Jésus, lors de sa première prédication, au chapitre 4, verset 18, déjà il avait dit qu'il était venu, il citait Ésaïe 61 en disant ça, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quand on regarde au contexte d'Ésaïe, certes ça fait référence à ceux qui sont dans l'abaissement, mais aussi référence à ceux qui, dans la repentance, placent leur espérance en Dieu. Aussi, ce concept de la grande inversion, elle est présente à plusieurs endroits dans le livre de Luc. Et on voit ça ailleurs, par exemple, en Luc, chapitre 1, versets 52 et 53, il y a Marie qui fait un chant de louange, et elle dit, en parlant de l'action de Dieu, « Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé à riches les mains vides. » Ainsi, on voit qu'il n'y a pas juste le matériel qui est en jeu dans les paroles de Jésus. Ce n'est pas ça le principe clé. Les pauvres, ceux qui ont faim, qui pleurent, ça fait référence à ceux qui vivent, d'une certaine manière, en décalage vis-à-vis du monde et qui placent leur attente en Dieu. Ils s'attachent à Dieu, malgré le coût que cela leur impose de suivre Dieu dans un monde qui vit en rébellion contre Dieu. Ça peut être lié à une pauvreté matérielle, c'est pas c'est pas du tout exclu, c'est généralement le cas. C'était le cas dans l'époque d'Ésaïe, c'était aussi le cas de beaucoup à l'époque de Jésus. Mais ce n'est pas le point central. Le point central, c'est ce que ces termes représentent. Ils représentent ceux qui vivent en étranger, dans un monde qui n'est pas le leur, parce qu'ils placent leur espoir en Dieu, pas dans les richesses et dans les plaisirs, mais en Dieu qui les délivrera un jour. S'attacher à Dieu, on voit ça dans ce passage aussi, ça passe forcément par s'attacher à son Fils, Jésus-Christ, le reconnaître comme roi, se soumettre à son autorité, respecter sa personne, aimer notre prochain, et rechercher à être fier de son nom et rechercher à le faire connaître à d'autres par amour. C'est pour cela qu'on voit ça dans le texte, par exemple, verset 22, Jésus il lit tout ça ensemble en présentant que ceux qui sont pauvres, affamés et qui pleurent, ils subiront forcément de l'opposition pour leur attachement à lui. On relit le verset 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront, vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. » On voit que tout ça est lié. Ainsi, dans son discours, on voit que Jésus, il simplifie les choses en divisant l'humanité en deux. D'une part, ceux qui espèrent en Dieu, qui sont maltraités, pauvres, méprisés, et de l'autre, ceux qui, au milieu de ce monde, qui vit en rébellion contre Dieu, s'enrichissent, vivent pour les plaisirs au-delà du bien, se rassasient de bien, vivent la belle vie, manquent de compassion envers les faibles, les exploitent. Il s'agit de représentations simplifiées de la réalité. On n'est pas en train de dire, Jésus n'est pas en train de dire ici que tous les riches et tous les pauvres seront forcément ainsi. Il bâtit ça sur ses propos, sur les concepts de ces deux personnages qui se construisent dans l'Ancien Testament, au travers des prophètes, et notamment au travers du livre des Psaumes. Ainsi, les riches, c'est ceux qui vivent pour ce monde, sans se détourner de leur mal, qui vivent égoïstement pour les plaisirs. Et dans les faits, c'est ce qu'on peut voir encore pour beaucoup aujourd'hui. Beaucoup, si on ne donne pas pour aider d'autres ou pour l'œuvre de Dieu, si on ne donne pas de son temps à d'autres pour aider d'autres peuvent être dans les besoins, si vous ne vous préoccupez pas de la gloire de Jésus, si vous ne vous préoccupez pas de la réconciliation de votre prochain avec Dieu, dans un sens, vous pourrez vivre plus confortablement. Vous éviterez bien des malheurs. Vous aurez probablement plus de confort. Passer à travers peut-être une plus belle maison, une plus belle voiture. Dans un sens, on pourrait dire, on vit mieux sans vivre pour Jésus. Ainsi, ça, ce sont les riches de ce passage. Mais Jésus exprime clairement que ces personnes-là finiront dans les larmes et le deuil. Dans les versets 22 et 23, on peut les relire. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront, vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » C'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Jésus y parle d'un rejet que subiront ceux qui s'attachent à lui pour leur attachement à son nom. En Europe, aujourd'hui, on est particulièrement béni de la période dans laquelle on vit pour les chrétiens. On a l'opposition pour notre foi, elle est assez faible. Historiquement et au niveau mondial, les chrétiens ont subi et subissent encore des persécutions et une opposition bien plus grande pour leur attachement à Jésus. Néanmoins, ça reste vrai qu'encore aujourd'hui, suivre pleinement Jésus suscitera de l'opposition, suscitera de la moquerie. Pour beaucoup, peut-être parmi vous, voudront partager l'espérance que nous avons en Jésus, et ça sera mal vu. Ce sera vu comme une fermeture d'esprit, de penser que Jésus serait le seul chemin vers Dieu. Parler de la réalité du jugement à venir pour chacun, du jugement de Dieu, du besoin de se détourner de ses péchés, de se confier en Jésus pour être réconcilié à Dieu, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable à entendre pour les gens de notre monde. Tout cela, ça suscitera du rejet. Mais Jésus, il dit dans ces moments, réjouissez-vous, regardez à l'avenir et réjouissez-vous. Ce serait tellement plus facile peut-être de ne pas parler de Jésus, de se taire, d'être apprécié du monde, de simplement parler de sujets qui plaisent plus ou moins à tout le monde. On pourrait parler de nos vacances, de nos conforts, des biens qu'on achète, de nos loisirs. Beaucoup de sujets qui ne susciteraient pas l'opposition. Mais Jésus, il proclame qu'un jour, ce monde, dans l'ordre actuel, sera complètement renversé. La situation présente ne restera pas éternellement. Ceux qui sont aujourd'hui méprisés, pauvres, affamés pour son nom, parce qu'ils auront espéré en Jésus, auront suivi Jésus comme roi, eux, ils seront rassasiés, ils seront dans la joie, ils seront récompensés, ils se réjouiront. Au contraire, ceux qui auront vécu pour les richesses, pour les plaisirs, qui n'auront pas accepté ce roi qu'est Jésus, ils finiront dans les larmes, dans le deuil, sous le jugement de Dieu face à la mort éternelle. Les richesses de la vie présente peuvent paraître impressionnantes, mais elles ne dureront qu'un temps. Et puis Christ renversera ce monde et instaurera son règne éternel. Donc si vous vous attachez à Christ, le roi promis, et si vous dites « Ah, c'est pas facile, si vous avez d'une certaine manière faim, ça vous suscite des pleurs, si vous voyez bien que vous n'êtes pas de ce monde, qu'il y a peut-être des richesses qui vous passent sous le nez, que votre vie elle n'est pas aussi extraordinaire par rapport à d'autres qui vivent sans Dieu, sans s'attacher à Jésus, dites-vous bien que c'est normal. C'est normal parce que Jésus n'a pas encore pleinement renversé les choses. On est ici comme des étrangers, en rejet dans ce monde. Jésus, verset 23, dit qu'en tant que rejeté, on vous traite comme des prophètes, comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un très bon signe. Très bon signe. Et si, imaginez un mouton qui déménagerait pour habiter parmi des loups. Et si ce mouton qui déménage parmi des loups, on voit qu'il s'enrichit, il fait sa meilleure vie, il est trop heureux. Est-ce qu'on dirait que c'est normal ? Non, on aurait des doutes. Est-ce que c'est vraiment un mouton ? Non, bien sûr que si le mouton habite parmi les loups, ça va être difficile. Ça va pas être agréable pour lui. Mais donc c'est normal, mais dites-vous aussi que c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a de la joie à avoir. Il y a de la joie à avoir par rapport à l'avenir. Un jour, Jésus assure que pour notre attachement à lui sera récompensé. On rira, on sera dans la joie. Notre récompense sera grande. L'ordre du monde présent passera vite, puis ensuite il y aura une joie éternelle. Il y aura une grande joie, aucun regret pour ceux qui se seront attachés à lui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Belgique a été occupée par l'Allemagne nazie pendant plusieurs années. Des périodes difficiles. Puis finalement, l'Allemagne nazie, elle a été renversée. Elle a perdu la guerre. Le monde a changé. Et qui, en regardant en arrière à cette période, peut avoir été fier ? Peut avoir été fier de comment est-ce qu'ils ont vécu ces années ? Est-ce que c'est ceux qui ont collaboré avec les nazis ou qui se sont enrichis énormément pendant ces années ? Non. Ceux qui peuvent être fiers, c'est ceux qui ont résisté. Ceux qui ont été fermes dans leurs convictions à s'attacher au bien, malgré le fait que ça avait un coût et que c'était difficile. Clairement, ils étaient opprimés, rejetés pour leur valeur. Mais maintenant, ils regardent en arrière et ils sont heureux. Il y a, pour ceux qui connaissent pas loin d'ici, au parc Georges-Henri, il y a un monument pour les femmes résistantes. Et signe que c'est un signe d'honneur, de gloire, d'avoir été de ceux qui se sont opposés à cette oppression. Ainsi, Jésus promet qu'un jour, il renversera. Il renversera l'ordre actuel et ceux qui se seront attachés à lui seront dans la joie. En revanche, ceux qui auront refusé son règne, qui auront vécu pour les richesses, qui auront vécu pour ce monde-ci, ils seront dans le malheur. Et ça, c'est un clair avertissement. Si Jésus dit cela, il dit pas cela pour se moquer ou parce que il en a rien à faire. Non, s'il le dit, c'est pour avertir. C'est pour avertir par amour de ce qui arrive. Dit verset 24, « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. » Ce que ces gens ont, c'est tout ce qu'ils auront. Ils ont ces choses, mais ils n'auront rien de plus. Et c'est triste. C'est triste, ils vont à leur perte. Et si peut-être vous vous reconnaissez dans cette description, si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu par Jésus, Jésus vous avertit que ce renversement aura lieu pour que vous puissiez aller à lui avant qu'il ne soit trop tard. Jésus, il est riche en compassion. Il est venu pour sauver plusieurs, nombreuses personnes. Il est allé jusqu'à donner sa vie à la croix pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu et avoir la vie. Ainsi, si vous allez à lui, il ne vous rejettera pas. Jésus annonce que ce grand renversement aura lieu. Un ordre complètement différent. Ceux qui sont élevés seront abaissés, ceux qui sont abaissés seront élevés. Ce grand renversement, il aura lieu quand Jésus reviendra pour établir pleinement son règne. Et face à ce renversement, il n'y a que deux options. Comme j'en ai parlé plusieurs fois. Ou bien ce grand renversement, on a vu avec les 12, ce changement de royaume, Jésus qui était capable de restaurer le monde à travers de la guérison, qui prévoyait d'inverser ce qui était en haut et ce qui était en bas. Soit c'est un sujet de joie, soit c'est une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que ça nous suscite de la joie de voir ce royaume qui est à venir, de voir les promesses de Jésus, ou une mauvaise nouvelle, parce que quand Jésus aura tout renversé, il ne nous restera plus rien. Ce renversement, ça touchera chacun. Il n'y a personne qui sera laissé de côté dans ce renversement. On ne pourra pas dire « Ah non, moi ça ne me concerne pas ». Non, ça touchera chacun. Et si c'est un sujet de joie, ce texte, il nous encourage à persévérer. À persévérer dans notre attachement à Dieu par Jésus, à oser être fier de Jésus dès aujourd'hui, à vivre pleinement pour lui, à ne pas être accablé ou dans le doute quand on peut subir la moquerie ou le rejet pour le nom de Jésus, car on a cette assurance de ce renversement qui arrive. Un jour, il renversera pleinement le monde, et alors si vous êtes attaché à lui, vous serez pleinement dans la joie, vous serez rassasié, comblé. Cette perspective, elle devrait déjà nous réjouir aujourd'hui. Par anticipation, nous pouvons déjà nous réjouir de ces vérités. Il ne faut pas se laisser décourager par les apparences du monde. Beaucoup de choses passeront. Et alors, quand tout sera renversé, ceux qui seront attachés à Christ seront dans la joie, une joie complète et éternelle. Donc gardons les yeux vers Jésus, vers ses promesses. Réjouissons-nous dans ses promesses et son amour. Je vais terminer en relisant juste les versets des paroles de Jésus, du verset 20 à 23. Lisons. Alors Jésus leva les yeux et dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque des hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront, vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Prions. Merci Père pour ta parole. Merci pour la venue de Jésus. Merci pour ces paroles qui nous annoncent ce grand renversement que tu prévois de faire par Jésus. Merci pour la joie que c'est de savoir que voilà, un jour il y aura un royaume, ce royaume où tu seras roi, sera restauré, où il n'y aura plus de mal, où les maladies seront guéries, où il n'y aura plus de mort. Merci pour ta puissance pour renverser cela. Merci également pour ta justice et pour ce monde que tu ne veux pas laisser indéfiniment ainsi, mais un jour où tu me remettras en ordre. Merci parce que par ta grâce, tu nous permets, si on vient à toi, de faire partie de ces pauvres qui se réjouiront. Merci pour toute cette joie qu'on peut avoir par anticipation au travers de tes promesses. Et je te prie que tu nous permettes de vivre pleinement pour toi, de nous attacher à toi, le vrai roi, à ne pas être accablé ou découragé par les circonstances présentes, par les peines présentes, à se décourager de vivre pour toi, mais qu'on puisse vraiment pleinement vivre pour toi et être fier de ton nom, à la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on te prie pour tous ceux qui... dans nos proches, dans les personnes qu'on connaisse, qui pourraient être ici ou ailleurs, qui ne te connaissent pas, qui vivent d'une manière qui te rejette, qui ne s'attache pas à toi, que tu puisses te révéler à elles, afin qu'elles ne subissent pas cette peine, ces larmes qui sont annoncées pour ceux qui ne viendront pas à toi. Au nom de Jésus. Amen.